Chapitre 15. Il y avait bien plus de 6 chaises dans la crypte, comme si l'on avait pensé y recevoir une plus nombreuse assistance. Hardin nota la chose dans un coin de son esprit et alla s'asseoir en soupirant aussi loin qu'il put des 5 autres. Les membres du conseil ne parurent pas s'en formaliser. Ils s'adressaient les uns aux autres à voix basse, chuchotant. Parfois une syllabe isolée chuintait jusqu'aux oreilles de Hardin, mais la majeure partie de la discussion lui demeurait inaudible. Seul Jord Farah avait l'air à peu près calme. Il avait tiré une montre de sa poche et ne la quittait pas des yeux, l'air profondément préoccupé. Hardin jeta un coup d'œil à la sienne, puis son regard revint à la cage de verre, absolument vide, qui occupait la moitié de la salle. C'était le seul élément à tant soit peu singulier du décor. Rien, en tout cas, ne révélait la présence, ou que ce fût, d'un ordinateur occupé à décompter les derniers instants qui restaient avant qu'un flot de muons fût libéré, établissant une connexion qui... La lumière baissa. Elle ne s'éteignit pas complètement, mais son éclat diminua avec une telle soudaineté que Hardin sursauta. Stupéfait, il avait levé les yeux vers l'éclairage du plafond, et quand il les tourna de nouveau dans la direction de la cage de verre, celle-ci n'était plus vide. Elle était occupée par une silhouette. Une silhouette assise dans un fauteuil roulant. L'apparition demeura quelques instants silencieuse, puis elle referma le livre qu'elle tenait sur les genoux et en palpa machinalement la couverture. Puis elle sourit, et son visage parut s'animer. « Je suis Harry Seldon », dit alors l'apparition d'une voix douce et ancienne. Hardin faillit se lever pour se présenter à son tour, mais il se maîtrisa à temps. La voix continua sur un ton parfaitement naturel. Comme vous le voyez, je suis cloué dans ce fauteuil et ne puis me lever pour vous saluer. Vos grands-parents sont partis pour Terminus quelques mois avant que ne me frappe la paralysie qui m'immobilise depuis. Je ne peux pas vous voir, vous le savez, si bien que je ne puis vous accueillir comme il conviendrait. Je ne sais même pas combien vous êtes. Tout ceci doit donc se passer sans vain cérémonial. Si certains d'entre vous se sont levés, je les prie de bien vouloir se rasseoir. Et s'il y en a qui veulent fumer, je n'y vois pas d'inconvénient. Pourquoi en verrais-je ? Reprit-il avec un petit rire. Je ne suis pas vraiment ici. Hardin chercha machinalement un cigare dans sa poche, puis se ravisa. Harry Seldon lâcha son livre, comme s'il le posait sur une table à côté de lui, et quand ses doigts l'eurent abandonné, le livre disparut. Il poursuivit. Voilà 50 ans aujourd'hui que fut créée cette fondation. 50 ans durant lesquels ses membres ont ignoré vers quelle fin tendaient leurs efforts. Cette ignorance était nécessaire, mais ne s'impose plus aujourd'hui. Pour commencer, sachez que la Fondation Encyclopédique est, et a toujours été, une imposture. Hardin entendit qu'on s'agitait derrière lui. Quelques exclamations étouffées fusèrent, mais il ne se retourna pas. Naturellement, Harry Seldon continuait imperturbable. C'est une imposture dans la mesure où ni moi ni mes collègues ne nous soucions de voir jamais publier un seul volume de l'encyclopédie. Elle a rempli son but, puisqu'elle nous a permis d'arracher à l'empereur une charte, d'attirer ici les 100 000 êtres humains nécessaires à la réalisation de notre projet, et de les occuper tandis que les événements se précisaient jusqu'au jour où il fut trop tard pour qu'aucun d'eux pût revenir en arrière. Durant les 50 ans que vous avez consacrés à cette escroquerie, n'ayons pas peur des mots, votre retraite a été coupée. Et vous n'avez plus d'autre solution que de vous atteler au projet infiniment plus important qui a été et demeure le but véritable de notre entreprise. À cet effet, nous vous avons installé sur une planète et dans des conditions telles qu'en 50 ans, vous vous êtes trouvé privé de toute liberté d'action. Désormais, et pour des siècles, la route est pour vous tracée. Vous allez affronter toute une série de crises dont les événements actuels ne sont qu'un avant-goût. Et à chaque fois, votre liberté d'action se trouvera pareillement anéantie par les circonstances, si bien que vous ne pourrez adopter qu'une solution et une seule. Et cette solution nous aura été indiquée par nos recherches psychologiques. Elle s'imposera donc d'elle-même. Depuis des siècles, la civilisation dans notre galaxie stagne quand elle ne décline pas, même si peu de gens s'en sont rendus compte. Mais aujourd'hui, enfin, la périphérie se délite et l'unité politique de l'Empire est ébranlée. Les historiens de l'avenir traceront fort arbitrairement un trait quelque part au cours des 50 ans qui viennent de s'écouler et ils diront « Ceci est le début de la chute de l'Empire galactique ». Et ils auront raison, quoique personne ou presque ne doive avoir conscience de cette chute durant encore des siècles. La chute sera suivie d'une période de barbarie inévitable, dont la psychohistoire nous dit qu'elle devrait normalement durer 30 000 ans. Nous ne pouvons empêcher la chute. Nous ne le souhaitons même pas, car la civilisation impériale a perdu toute la vigueur et toute la dignité qu'elle a pu jadis posséder. Mais nous pouvons abréger la durée de la période de barbarie qui doit suivre. Nous pouvons la ramener à un millier d'années seulement. Nous ne vous expliquerons pas en détail comment y parvenir pour la même raison qu'il y a 50 ans nous n'avons pas pu vous dire la vérité à propos de la Fondation. Si vous veniez à l'apprendre, le projet risquerait d'échouer. Mais nous aurions couru le même risque en vous révélant plutôt que l'encyclopédie n'était qu'une imposture, car alors le développement de vos connaissances aurait accru votre liberté d'action. Et le nombre de variables qui seraient intervenues aurait dépassé les possibilités de la psychohistoire. Mais il n'en sera pas ainsi, car il n'y a pas de psychologue sur Terminus et il n'y en a jamais eu, sauf à l'urine. Et il était l'un des nôtres. Il est une chose pourtant que je veux vous dire, c'est que Terminus et la Fondation Sœur installée à l'autre bout de la galaxie sont les germes de la Renaissance. De là viendront les fondateurs du Second Empire galactique. La crise que traverse actuellement Terminus est le premier pas vers cette conclusion. C'est d'ailleurs une crise assez simple, bien plus simple que la plupart de celles qui vous attendent encore. Voici à quoi se résume la situation. Vous êtes une planète brusquement coupée des centres encore civilisés de la galaxie, et menacée par des voisins plus puissants. Vous représentez une petite colonie scientifique cernée par la barbarie qui s'étend chaque jour davantage, le dernier îlot nucléaire au sein d'un océan de plus en plus primitif. Pourtant, malgré cela, vous êtes sans défense, car vous manquez de métaux. Vous voilà contraint et forcé à agir au plus vite. Vous vous en rendez compte. Quel aspect doit prendre cette action? Autrement dit, quelle est la solution du dilemme où vous vous trouvez? Elle est, je crois, assez évidente. L'image de Harry Seldon ouvrit la main vers le vide et le livre, une fois de plus, s'y matérialisa. Le vieux savant l'ouvrit et conclut: mais quels que soient les chemins de traverse que puisse emprunter votre propre histoire, inculquez toujours à vos descendants qu'ils ont été déterminés d'avance et qu'ils mènent à un nouvel empire plus grand encore que le précédent. Les yeux de Seldon s'abaissèrent vers le livre. L'apparition s'évanouit et la lumière revint. Ardyn vit Pirène s'approcher de lui. L'air atterré, les lèvres tremblantes. Le président parla d'une voix ferme mais sans timbre. « Vous aviez raison, semble-t-il.
Si vous voulez nous rejoindre ce soir à 6 heures, le conseil va examiner avec vous les mesures à prendre. »
Avant de partir, chacun d'eux vint serrer la main de Hardin. Demeuré seul, il sourit. Ils étaient beaux joueurs quand même. Leur esprit scientifique les contraignait à reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Seulement, c'était trop tard. Il regarda sa montre. Tout était fini maintenant. Lee et ses hommes avaient pris le pouvoir et le conseil ne donnait plus d'ordre à personne. Les premiers vaisseaux anacréoniens se poseraient dès le lendemain, mais cela n'avait pas d'importance non plus. Dans 6 mois, les envahisseurs cesseraient eux aussi de commander. En fait, comme l'avait dit Harry Seldon et comme l'avait deviné Salvor Hardin dès le jour où O'Rodrick lui avait révélé qu'Anacréon avait perdu l'usage de l'énergie atomique, la solution de cette toute première crise était assez évidente. Cela crevait les yeux.